Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute!
Aujourd'hui, je vais interrompre notre série de pauses éducatives sur les éléments essentiels à avoir pour l'accueil de l'enfant de 0 et 3 ans, parce que c'est une journée un petit peu exceptionnelle. En effet, depuis 1975, l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars. Donc c'est aujourd'hui le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, qui a trouvé son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, qui réclamaient de meilleures conditions de travail et également le droit de vote. Donc j'ai eu envie de vous raconter l'histoire d'une femme qui a été vraiment très engagée et qui est emblématique de la femme en devenir du début du XXe siècle, c'est l'histoire de Maria Montessori. Alors Maria Montessori est devenue docteur en médecine, je vais vous raconter ça plus précisément, a été licenciée en philosophie, psychologie et biologie. C'était une femme très engagée qui a participé activement à la campagne menée à cette époque dans le monde entier en faveur de la conquête des droits sociaux et politiques des femmes. Et elle a apporté sa contribution très active au mouvement féministe. Elle a représenté l'Italie au Congrès féministe de Londres en 1889 et à Berlin en 1900. Donc je vais vous raconter l'histoire de cette femme engagée extraordinaire qui est une pionnière dans l'éducation nouvelle. Maria Montessori est donc née en 1870 dans une petite ville provinciale d'Italie. Et sa famille a déménagé à Rome en 1875, où elle a suivi ses études élémentaires de 1876 à 1882. Mais très tôt, elle s'intéressait aux mathématiques et elle rêvait de devenir ingénieure, mais elle fit face aux premières difficultés avec son père, qui lui, comme tous les hommes de cette époque, lui voyait plutôt une carrière d'enseignante. Mais grâce au soutien de sa mère, elle a réussi à s'inscrire en 1883 dans un collège technique pour garçons. Et elle a vite dû faire face déjà à 13 ans aux préjugés de la société envers les femmes et leur rôle dans la société. Mais malgré tout, elle s'est passionnée pour la biologie et rêvait déjà de devenir médecin. Donc en 1890, elle a la possibilité de s'inscrire à l'université et elle rêvait de la faculté de médecine. Sa mère la soutenait dans ses projets, mais face à l'hostilité de son entourage et notamment de son père, elle a opté dans un premier temps pour des études de sciences naturelles. Mais Maria Montessori, vous allez le voir, n'abandonne jamais. Et sa ténacité a fini par lui ouvrir les portes de la faculté de médecine et de chirurgie de Rome. Et là, encore une fois, elle doit faire face à l'hostilité et à la résistance du monde universitaire qui voit d'un très mauvais œil cette présence féminine. Et notamment, la discorde avec son père s'amplifie et il décide même de se désintéresser de ce qu'elle fait. Mais Maria Montessori est une étudiante très brillante et en même temps, elle s'attire la sympathie de certains de ses professeurs. Donc, en 1896, elle soutient sa thèse de doctorat qui porte sur un sujet de psychiatrie avec le soutien de son mentor qui est directeur de la clinique psychiatrique de l'université de Rome. Et alors, c'est une réussite totale pour Maria Montessori qui devient ainsi à 26 ans une des premières femmes médecins d'Italie. Les 10 années suivantes, elle va travailler énormément, elle va s'engager sans relâche pour ce qu'elle appelait les marginaux de la société, et elle milite pour la défense et la reconnaissance donc de ces marginaux qui sont les femmes et les enfants déficients mentaux. Donc elle va vraiment se battre pour les droits des femmes. Donc elle va se rendre à Berlin en 1896, puis à Londres, où ses interventions auront un retentissement énorme. C'est là qu'ont lieu les congrès internationaux des femmes, où elle représente la femme émancipée, sans toutefois faire partie des femmes extrémistes. Elle représente vraiment la femme émancipée et elle exige la paix, les réformes sociales, l'éducation et aborde les questions féministes épineuses. Donc elle plaide vraiment pour une parité salariale parce que les femmes de l'époque travaillaient le plus souvent dans des conditions déplorables pour un salaire qui était vraiment bien inférieur à celui des hommes. Donc les journaux ont publié les textes de son intervention et sa photo en première page et les gens se sont pressés pour assister à ses conférences, contents de voir que cette féministe était quand même très extrêmement féminine, etc. Donc en rentrant à Rome de ses congrès, elle retrouve évidemment ses activités de médecin assistant en chirurgie à l'hôpital Santo Spirito et elle ouvre un cabinet privé à Rome. En 1897, elle a donné naissance à son fils Mario. Encore une fois, cet épisode a été très particulier dans la vie de Maria Montessori, puisque cet enfant est né d'une relation avec le docteur Montesano, qui était un professeur de psychiatrie, et l'enfant ne prendra jamais le nom de son père, parce que ce père était issu d'une famille riche, dotée d'une mère très autoritaire, et donc le docteur Montesano n'a jamais épousé Maria Montessori, qui a donc donné naissance à Mario hors mariage. Donc à cette époque, c'était vraiment très 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 honteux, très scandaleux. Et sa mère, qui l'a énormément soutenue dans ses choix de vie et d'études, là l'a contraint à cacher sa grossesse et l'a obligée à abandonner son enfant. Elle a dû accoucher à l'étranger et le confier à une nourrice. Donc elle allait le voir très régulièrement en lui cachant le fait qu'elle était sa mère, jusqu'à ses 12 ans, où là elle l'a repris pour vivre avec elle et c'était au moment du décès de sa mère. À ce moment-là, ils sont partis aux États-Unis, là où Mario rencontra sa femme qu'il épousa à l'âge de 18 ans, et ils ne se sont plus jamais quittés, Maria et Mario Montessori, puisqu'il a toujours travaillé auprès d'elle, et jusqu'à la fin de sa vie, même à la fin de sa vie, après sa mort, il a poursuivi son œuvre. Donc, Maria Montessori a toujours vécu cette séparation comme une déchirure, et c'est un événement qui a certainement marqué sa vie. Donc, ensuite, elle a participé au congrès pédagogique à Turin, et elle a donné une série de conférences, et suite à cela, elle est devenue directrice de l'école d'État d'orthophrénie. Donc elle s'engage complètement dans ce projet, et elle travaille tellement que les enfants de cette école, qui sont classés parmi les enfants débiles, se développent d'une façon extrêmement inattendue. Parce qu'elle se rend peu à peu compte qu'en travaillant avec ces enfants, qui sont tout à fait capables d'apprendre comme tous les enfants. Donc elle commence à développer un matériel adapté qu'elle leur présente, et au grand étonnement de tous les spécialistes de l'époque, ces enfants réussissent à apprendre à lire alors qu'on les croyait incapables. De ce fait, Maria Montessori décide de les inscrire au certificat d'études, et le jour de l'examen, aucune faveur ne va leur être accordée, même on se moque d'eux. Et à la stupeur générale, ces enfants ont réussi les examens avec de meilleurs résultats que les enfants dits normaux. C'est alors qu'elle s'est commencé à se poser vraiment des questions sur l'éducation qui était donnée à ces enfants dits normaux qui auraient dû réussir beaucoup mieux. Et elle se demandait qu'est-ce qui pouvait entraver le développement de ces enfants, qui étaient quand même des enfants extrêmement sains, heureux dans les écoles ordinaires, mais qui avaient réussi moins bien. Donc ensuite, entre 1903 et 1908, elle est devenue professeure à l'Institut pédagogique de l'Université de Rome sur l'histoire de l'anthropologie et son application en pédagogie. Donc c'est à partir de 1906 qu'elle s'est occupée d'enfants normaux d'âge préscolaire pour lesquels elle va créer sa méthode pédagogique. Donc en 1907, le maire de Rome, qui a un grand projet de réhabilitation de ce qu'on appelait des bidonvilles, lui confie un local qu'elle va appeler la maison des enfants, la Casei dei Bambini, parce que on lui demande justement de créer un lieu d'accueil pour les enfants défavorisés qui, n'allant pas à l'école, dégradaient tous les bâtiments. Et c'est là qu'elle a profité de cette expérience pour élaborer son matériel pédagogique. Donc en 1908, donc un an plus tard, Maria Montessori est connue mondialement pour avoir découvert le monde intérieur de l'enfant et avoir développé une nouvelle méthode d'éducation. Donc elle démissionne à ce moment-là de son poste de l'université, elle renonce à sa clientèle privée pour former des éducateurs et écrire des ouvrages qui expliquent sa pédagogie. Donc en 1909, elle va donner son premier cours de formation à la pédagogie, auquel participent environ une centaine d'enseignants. C'est cette année-là que paraît son livre qui s'appelle « La pédagogie scientifique », dans lequel elle explique sa méthode et ses origines. Pédagogie scientifique que vous pouvez lire encore aujourd'hui et qui est un livre très intéressant que je vous conseille de lire. Donc en 1911 et 1912, les premières écoles Montessori ouvrent aux États-Unis avec notamment Alexander Graham Bell qui était extrêmement connu, qui crée une classe Montessori dans sa maison. Le livre « La pédagogie Montessori » se vend à plus de 5000 exemplaires en 4 jours. Et Maria Montessori, c'est là qu'elle va donner son deuxième cours de formation à la pédagogie Montessori. Donc elle est vraiment énormément soutenue aux États-Unis. Elle rencontre des grandes personnalités. Son matériel est fabriqué en Angleterre. Une association se forme aux États-Unis qui est présidée par justement Alexander Graham Bell avec Wilson comme secrétaire. Wilson qui était la fille du président Wilson. Puis en 1917, elle va faire sa première visite aux Pays-Bas où elle rencontre un biologiste qui s'appelle Hugo de Vries et c'est lui qui va lui permettre de lui donner une explication scientifique à sa découverte de ce qu'elle a appelé les périodes sensibles de l'enfant. Donc ça, j'en parle dans d'autres podcasts. Les périodes sensibles, c'est quelque chose qu'elle a découvert et qui a été validé par des explications scientifiques à ce moment-là. Puis elle a créé aussi une maison des enfants à Vienne dans laquelle Emma Planck-Spira et Anna Freud faisaient partie de ce cercle Montessori de Freud. Et c'est là qu'elle visite cette école et qu'elle fait paraître son livre qui s'appelle « L'enfant dans la famille ». Donc la guerre commençait peu à peu à se faire sentir et en 1930, Mussolini demande à Maria Montessori de former des instituteurs. En fait, le but de Mussolini était de former des soldats pro-régime dont la mission était d'embrigader et de formater les enfants. Maria Montessori s'aperçoit que ce n'est pas possible avec un régime totalitaire, donc elle est opposée au régime fasciste et elle s'exile aux Pays-Bas avec son fils. Donc c'est là, en 1935, qu'elle va publier « L'enfant », qui est un livre dans lequel elle transmet l'essentiel de ses idées sous forme de courts chapitres. Et ça, c'est un livre extraordinaire que tout le monde devrait lire. Donc « L'enfant » de Maria Montessori, même bien avant la pédagogie scientifique, si on doit lire un livre de Maria Montessori, il faut vraiment lire « L'enfant », qui révèle énormément de choses et qui est vraiment un livre fabuleux. Donc en 1936, le gouvernement fasciste italien va condamner et proscrire les principes éducatifs de Maria Montessori et toutes les écoles en Italie sont fermées, donc elle doit quitter encore une fois l'Italie et s'installe en Espagne. Mais malheureusement pour elle, l'arrivée de Franco l'oblige à s'enfuir d'abord en Angleterre puis aux Pays-Bas grâce à un bateau militaire anglais. Donc de 1939 à 1945, Maria Montessori va fuir la guerre et s'exiler en Inde. Et là-bas, elle est assignée à résidence en tant que ressortissante italienne, donc jusqu'en 1945. Donc elle profite de ce moment pour créer de nombreuses écoles Montessori en Inde. Elle rencontre des personnalités extraordinaires comme Gandhi, comme Nehru, comme Tagore. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'intéresse de plus en plus aux nouveau-nés et aux très jeunes enfants. Donc en 1945, elle revient en Europe et elle monte un grand stage en 1947 à Londres. Elle rétablit les centres Montessori en Italie à la demande du gouvernement. Et en 1949, elle va publier « L'esprit absorbant de l'enfant » dans lequel elle va vraiment transmettre son approche spirituelle et philosophique de l'enfant et aussi tout ce qu'elle a retenu de la philosophie hindoue. Donc entre 1949 et 1951, Maria Montessori va être nominée 3 fois pour le prix Nobel de la paix, mais malheureusement, elle ne recevra jamais ce prix. Elle meurt donc le 6 mai 1952 aux Pays-Bas. Elle est alors âgée de 82 ans et elle est décorée de la Légion d'honneur en France, officier de l'ordre d'Orange, Orange Nassau aux Pays-Bas et citoyenne d'honneur de nombreuses villes. Donc en fait, cette femme, pour moi, bon, elle a marqué ma vie, bien sûr, vous le savez, parce que j'ai cette passion pour la pédagogie Montessori depuis plus de 30 ans. Mais pour moi, c'est une femme qui a vraiment marqué son temps, marqué son époque et qui est une grande pionnière de l'éducation. Et c'est pour ça qu'elle méritait, je pense, un épisode aujourd'hui, Journée de la femme. Elle a vraiment une vie extraordinaire et a montré comment, avec de la volonté, on arrive à ses fins. Et pour moi, c'est vraiment un modèle que l'on peut toutes suivre.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.